Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. En quête de sens, Sophie Noailles.
La moitié des sanctuaires mariaux les plus visités sont français. Que penser de cette piété mariale? Ces sanctuaires redeviennent pour certains des lieux de rassemblement et de pèlerinage importants. Comment l'expliquer? Ces sanctuaires proposent notamment, dans la nuit du 14 au 15 août, une nuit de prière pour la paix et la France, une initiative qui a été lancée le 25 mars dernier. On en parle avec mes invités tout autour des sanctuaires français et puis avec un invité en studio ce matin. J'ai le plaisir d'accueillir en studio le père Robert, c'est la dernière aujourd'hui, c'est pour ça. Le père Robert Witwicki, vous êtes marianiste, vous êtes ancien recteur du sanctuaire marial dans le diocèse de Bordeaux, Notre-Dame de Verdelais, et vous êtes membre de la Société d'études mariales. Bienvenue, père.
Bonjour et merci de cette invitation.
Et nous irons également, dans une petite dizaine de minutes, rejoindre le sanctuaire de Lourdes, puis après le sanctuaire de Notre-Dame de Rocamadour, et nous terminerons par le sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray. Alors vous me direz, ce n'est pas un sanctuaire marial, mais sans Sainte-Anne, il n'y aurait pas Marie. C'est toute la grande famille, n'est-ce pas,
Robert Witwicki? Les grands-parents. Les grands-parents ont un rôle important dans l'éducation chrétienne des enfants et des petits-enfants maintenant. Oui.
Voilà, et on va le vérifier cet été justement parce que beaucoup de jeunes, d'enfants vont être emmenés dans ces sanctuaires mariaux par leurs grands-parents.
Mais oui, c'est une très bonne initiative pour éveiller en eux ce sens de cette dimension de pèlerinage qui est sous-jacente à toute vie humaine. D'autant plus que au sommet de cet été, au sommet des vacances, il y a la grande fête de l'Assomption qui est vraiment un doigt pointé vers le ciel, vers l'éternité où nous attend le Seigneur et Marie.
En cette belle fête du 15 août, et on le verra sans doute avec le recteur du sanctuaire de Lourdes, où il y a ce grand pèlerinage national à Lourdes qui prend toute son importance. Qu'est-ce qu'un sanctuaire marial?
Un sanctuaire... Aller dans un sanctuaire, c'est quelque chose qui n'est pas proprement chrétien, c'est quelque chose d'universel. L'homme a besoin de chercher des réponses à des questions ultimes sur le sens de sa vie, sur l'après-vie et de tout temps. De toute éternité, si je puis dire. On avait l'habitude, déjà dans l'Antiquité, grecque, romaine, égyptienne, etc., d'aller dans des lieux où on cherchait des réponses à ces questions. Alors, il y avait des inspirés, des pitis, des hommes ou des femmes de Dieu qui répondaient à ces questions. Et nous, bien sûr, les chrétiens, nous avons la clé de tous les mystères de l'homme, c'est le Christ, fils de Marie. Voilà. Donc, il a partagé notre condition humaine et donc nous cherchons auprès de lui, dans les sanctuaires mariales, ses lumières sur le sens des grandes questions de la vie. Vous savez, le plus important dans tous les sanctuaires, mariales ou autres, c'est la lampe du sanctuaire, c'est la présence du Christ.
C'est d'abord lui le cœur du sanctuaire.
Bien sûr, c'est toujours lui. Et c'est lui qu'on célèbre dans l'Eucharistie ou dans les sacrements de pénitence.
Là, on retrouve toute la dévotion et tout Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort à Jésus par Marie.
Évidemment. Marie est l'image de l'Église en marche au service du royaume, vers l'accomplissement du royaume, vers le royaume éternel.
Alors, je parlais de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Le pape Jean-Paul II y était très attaché, avait avec lui ce traité de la vraie dévotion. Et tous les papes ont eu cette dévotion mariale très importante au niveau de leur pontificat, notamment. Et le pape François, justement, a resitué les sanctuaires comme lieu d'évangélisation, en les faisant changer d'ailleurs de dicaster avec un nouveau motu proprio du 11 février. Le sanctuaire est aujourd'hui un vrai lieu d'évangélisation.
Je pense que cela a toujours été. Encore plus aujourd'hui où beaucoup de paroisses n'ont plus de curé, où l'appartenance à l'Église n'est plus tellement territoriale, où on choisit le lieu où on veut rencontrer le Seigneur et célébrer sa foi. Et donc, les sanctuaires sont des lieux où on va occasionnellement. Et la différence entre un curé et un recteur de sanctuaire, c'est justement que le curé, il a un peu la charge d'une famille locale, tandis que le recteur, il accueille des gens de passage.
Et vous-même, père, vous avez été recteur.
Oui, c'est ça. C'est cette expérience à Verdelay, dans ce petit sanctuaire, qui a été un grand sanctuaire du Sud-Ouest avant que Lourdes ne l'éclipse.
Alors si justement, on parle de Lourdes et on va rejoindre cet extraordinaire sanctuaire de Lourdes avec le père André Cap, qui est recteur de ce sanctuaire. Bienvenue, bonjour père.
Bonjour.
Alors je le voyais tout à l'heure sur les réseaux sociaux avec tous les diocèses qui font des pèlerinages en ce moment, alors, comme toute l'année évidemment, mais là il y a des jeunes qui sont présents, il y a énormément de personnes et puis évidemment il y aura ce grand pèlerinage national pour la fête du 15 août à Lourdes. Que se passe-t-il à Lourdes, père André Cab?
Il se passe finalement la même chose qu'au premier jour, c'est la grâce d'un sanctuaire, de nous rendre contemporains de l'Évangile. À travers la rencontre de Marie et de Bernadette, c'est la lumière de l'Évangile qui s'est ouverte au fond d'un trou noir du rocher, au fond d'une existence sans issue. C'est un bruit comme un coup de vent qui s'est fait entendre comme l'écho d'une nouvelle Pentecôte. Et c'est finalement ce dont l'Église est chargée au long des siècles, de faire que la visite de Jésus à notre terre ne soit pas une visite éphémère, passagère, terminé au moment de la croix ou de l'ascension, mais qui est accessible à chaque instant. Au fond, le sanctuaire est un peu le modèle de ce que doit être toute l'Église. Et j'entendais à l'instant que le père disait que, évidemment, nous nous occupons de personnes de passage et qu'un curé de paroisse, ce que j'ai été pendant une vingtaine d'années, s'occupe des personnes qui restent. C'est vrai qu'il y a cette différence et en particulier cette question que nous nous posons, que deviennent ces personnes que nous croisons. À l'instant, je viens de la grotte et une personne m'a arrêté pour recevoir le sacrement de confession. Et je ne la connais pas, je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas où elle va. Et c'est vrai. En même temps, les deux réalités se fécondent mutuellement. En paroisse, nous devons offrir toujours aussi l'inattendu, recevoir et offrir l'inattendu, et nous ne sommes pas propriétaires des gens qui nous sont confiés. Dans un sanctuaire, nous devons aussi, inversement, accompagner les personnes. Elles nous sont confiées pour cet instant où elles nous sont données, mais vraiment avec toute leur vie, nous les prenons telles qu'elles sont, et nous les mettons au contact, nous permettons qu'elles soient mises au contact de la grâce qui leur est offerte. Et alors à Lourdes, c'est ça qui continue de se passer. Alors évidemment, les sanctuaires sont au niveau statistique plus importants ou moins importants.
On parle de plus de 6 millions de pèlerins à Lourdes. Hein.
Oui, il y a beaucoup, beaucoup de monde, c'est vrai. Alors on s'aperçoit que pour les gens qui étudient les phénomènes sociaux, bon, on voit bien que la sociologie de la vie chrétienne en France, notamment, mais en Occident en général, a beaucoup changé. Quand j'étais tout jeune, moi maintenant j'ai plus de 65 ans, quand j'étais tout jeune et que je venais à Lourdes, je voyais arriver des grands cortèges de pèlerinages de toutes les provinces de France, les uns après les autres. Il n'y avait guère qu'eux. On avait improvisé un tout petit peu ce qui est devenu l'organisation pèlerin d'un jour pour les quelques touristes ou campeurs qui venaient par eux-mêmes. Mais la grande majorité des gens venaient en pèlerinage organisé.
Oui,
maintenant, sans doute la moitié à peu près de ceux qui arrivent.
Oui, Père André, bonjour. Quand j'étais jeune séminariste, j'ai accueilli des pèlerins d'un jour à Lourdes aussi. Oui, vous disiez ce qui est commun entre les curés et le recteur, disons les chrétiens qui fréquentent les paroisses ou les sanctuaires, c'est la même parole de Dieu, c'est le même Seigneur que nous écoutons et que nous essayons de suivre en disciples. Voilà. Oui, et puis des grands sanctuaires donnent aussi une dimension d'appartenance à une grande église en marche. Et ça, c'est très important. Le pape Jean-Paul II, dans son encyclique Mariale, avait développé ce thème de l'Église en pèlerinage, en marche, voilà.
Oui, oui. Oui. Et alors après, chacun a une grâce un peu particulière. C'est vrai qu'à Lourdes, dès le début, mais c'est un peu vrai pour tous les sanctuaires, hein. Mais tout de même, de manière plus massive, nous avons vu arriver les personnes handicapées, fragiles, malades, dès la période des apparitions, dès la quinzaine de jours où Bernadette était invitée par Marie à la rejoindre à la grotte, à ce moment-là se sont produits les premiers miracles.
J'ai envie de dire que les sanctuaires, c'est un peu comme les quatre évangiles. C'est le même mystère du Christ, la même présence.
Si vous voulez,
mais chaque sanctuaire a une manière originale, particulière de le présenter. Le sanctuaire est un peu comme un livre ouvert, un évangile ouvert, où les pèlerins sont appelés à lire, mais aussi à méditer, à recevoir l'appel et à se convertir. Voilà.
Alors, Père André Cab, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire dans l'ordinaire à Lourdes, puisque toutes les personnes qui y vont, justement avec leur fragilité, qu'elles soient morales, physiques, leur handicap, ou simplement une personne qui n'est pas forcément croyante, est touchée par Lourdes, parce que elle sait qu'à l'intérieur de ce sanctuaire, elle ne sera pas jugée. Elle est juste là, elle est présente, et elle est juste enfant de Dieu et accueillie comme telle.
C'est vraiment le signe de la présence des malades. S'ils font peur ailleurs, c'est qu'ils nous renvoient à nos propres maladies, à nos propres faiblesses. Ici, nous n'avons pas peur de voir nos propres maladies, nos propres faiblesses. Nous le reconnaissons tous fragiles. Hier encore, j'étais avec des mamans qui ont des enfants malades, qui sont à l'hôpital de Padre Pio, la Casa Sollievo della Sofferenza. Et je voyais comment les unes et les autres s'encourageaient mutuellement. Si l'une était toute seule avec la souffrance de son enfant, elle ne pourrait pas la supporter. Et puis elles me disent, et puis nous voyons finalement que nous ne sommes pas toutes seules. Et du coup, elles sont souriantes et elles s'encouragent leurs enfants aussi. Et c'est ça que Marie permet. Marie, c'est la mère de famille qui fait que devant elle, nous n'avons pas peur d'être ce que nous sommes. Et du coup, les uns devant les autres non plus. Si nous n'avions pas Marie, les uns devant les autres, nous aurions peur.
Je pense que cette dimension...
Elle nous regarde de manière tendre, aimante, elle nous enfante, et du coup, nous nous laissons faire.
Je pense que cette dimension de la miséricorde, de la douceur de Marie est très importante dans tous les sanctuaires. Alors, on a des titres différents, mais c'est le même mystère. Verdelais était consolatrice des affligés, vous voyez. Alors que le rétable du sanctuaire représente Marie dans la gloire, eh bien, ce que les chrétiens viennent chercher, ce qu'ils viennent confier à Marie, c'est leur souffrance, les difficultés de leur vie pour chercher un peu de lumière et de consolation.
Alors, Père André Cap, comment s'organise le sanctuaire cet été pour accueillir justement ces millions de pèlerins avec cette date, évidemment, ce summum qui est le 15 août, la fête de l'Assomption de Marie?
Oui, c'est une date symbolique, surtout pour la France, et j'aimerais d'ailleurs qu'elle le devienne toujours plus. Une communauté, et donc une communauté nationale, a besoin mystérieusement d'une transcendance, d'un dépassement qui lui est offert. Et ici, il lui est offert à ras de terre, dans le cœur d'une maman. Donc, c'est symboliquement pour les Français, je crois, un beau lieu de pouvoir confier notre communauté nationale à cette grotte où elle est à nouveau enfantée. Et alors, après, bien sûr, nous sortons de 15 jours de pèlerinage espagnol. Il y en a d'ailleurs encore. À l'instant, il y a la messe de plusieurs pèlerinages espagnols à la grotte. On dirait que, d'une certaine manière, les nations se regroupent un tout petit peu. Et donc, ils sont aussi vraiment très, très présents. Et nous avons de plus en plus aussi de pèlerinages de pays de l'Est. Nous entendons un grand groupe de Tchèques qui doit arriver, mais qui est déjà venu il y a longtemps. Ils viennent fêter un 100e ou 110e anniversaire de leur venue. Et donc c'est très divers. Plus tous ces groupes que des agences de voyage invitent à venir, qui viennent d'Indonésie, du Brésil, des Philippines, du Sri Lanka, donc d'Afrique, d'Amérique latine, d'un peu partout vraiment.
C'est l'Église
Lourdes
universelle.
Fait partie un peu de l'itinéraire obligé. Alors de notre côté, nous avons une équipe internationale de chapelains, nous avons des religieuses de tout pays, des sœurs indiennes, des sœurs chinoises, des coréennes, pour que chacun soit dans une maison d'accueil polonaise, etc. Pour que vraiment chacun se sente bien chez lui et puisse être accueilli comme à la Pentecôte, dans sa propre langue. Ça qui fait aussi une spécificité de Lourdes, vous voyez, Fatima reste quand même très marquée par la tradition portugaise de Chestrova, comme sanctuaire polonais. Lourdes, c'est à la fois en effet un lieu où la France aime se retrouver le 15 août, mais en même temps, nous avons eu des messes internationales récentes où on avait un peu de peine à trouver des Français pour faire leur part d'animation linguistique. il y a ce brassage. Alors nous devons nous organiser de manière que les différentes catégories linguistiques, mais aussi au fond humaines, hein, nous avons une hospitalité très nombreuse, heureusement, mais nous devons faire appel toujours à des jeunes pour le renouvellement. Hein. Oui. Les jeunes sachent qu'ils sont les bienvenus ici et qu'on a besoin d'eux pour l'accueil des malades et pour l'accueil du tout venant. Je rêve de pouvoir avoir quasiment tous les 50 mètres des bénévoles qui accueillent les gens, et tout spécialement dans ce grand espace grotte que nous réaménageons encore.
Voilà, nous merci.
Puissions vraiment accueillir les personnes telles qu'elles sont.
Merci beaucoup, Père André Cab. Vous êtes le recteur de ce sanctuaire de Lourdes qui va accueillir encore des millions de pèlerins cet été. Et puis on retrouve toute l'actualité, évidemment, hein, du sanctuaire sur le site du sanctuaire de Lourdes. Et on peut même suivre les célébrations grâce à la télévision du sanctuaire. Merci à vous et très bel été.
Merci.
Et déjà,
merci
belle fête
beaucoup.
À venir.
Oui, au revoir, André.
De sens 01 56 56 44 00.
À l'œil du prince, Christophe Maury.
Fin de saison, dernière émission de l'œil du prince avant septembre, et c'est ce vendredi. Alors les théâtres annoncent leur programmation, et depuis 3 ans, eh ben oui, pour conclure notre saison, nous recevons Monsieur Philippe Tesson qui parlera de la saison au Poche Montparnasse.
À l'œil du prince, avec Christophe Maury, tous les vendredis à 11h sur Radio Notre-Dame.
Savez-vous que votre toit est le premier poste de déperdition de chaleur de votre maison?
Grâce au pacte de transition énergétique, l'entreprise C'est un comble vous propose d'isoler vos combles, votre cave ou votre garage pour 1 euro symbolique. Gagnez en confort été comme hiver et économisez jusqu'à 30% sur votre facture de chauffage. Vérifiez simplement et sans engagement votre éligibilité en appelant notre numéro gratuit au 01 83 81 51 51 83 81 51 51 ou en quelques clics sur le site c1-comble.fr.
C1-comble.fr.
Bonjour, c'est Virginie de l'équipe du téléphone du dimanche. Depuis 30 ans, tous les dimanches, Radio Notre-Dame accompagne les personnes détenues en leur permettant d'écouter les messages que leurs familles et leurs proches transmettent en direct grâce à notre standard. Car quelles que soient les raisons qui y mènent, la prison est toujours une coupure d'avec ceux qu'on aime. Votre message est un lien précieux et vital, car en entendant la voix d'un parent, de son ami, de son enfant, les détenus reprennent courage et confiance en l'avenir. Alors vous aussi, soyez fidèles à ce lien unique qui redonne l'espérance. Et retrouvez-nous tous les dimanches de 17h à 18h.
En quête de sens, Sophie Noaille.
Et de retour dans Quête de sens aujourd'hui pour évoquer ces sanctuaires, ces pèlerinages, ces rassemblements qui vont avoir lieu notamment cet été. Merci au Père André Cab, recteur du sanctuaire de Lourdes, que nous avions à l'instant au téléphone. Toujours avec moi en studio, le Père Robert Witwicki, marianiste et ancien recteur du sanctuaire de Notre-Dame de Verdelais dans le diocèse de Bordeaux. Et nous accueillons aussi à l'antenne le Père Michel Cambon, recteur du sanctuaire de Notre-Dame de Rocamadour. Bienvenue, Père.
Bonjour.
Alors,
bonjour,
vous êtes presque voisin.
Ben oui.
Avec Verdelais, non?
Quand même. Oui, il y a 300 km quand même, entre les deux, je pense, à peu près.
Oui, oui, oui.
Voilà, je pose une question au Père Robert Witwicki, et puis voilà, vous enchaînerez aussi, Père Michel Cambon. Cette piété mariale, Père Robert Witwicki, est-ce qu'elle revient aujourd'hui au goût du jour? Alors, j'aime pas cette expression, mais est-ce qu'aujourd'hui, on refavorise cette piété populaire qui, à un moment donné, dans l'Église, était quand même assez considérée comme de la mauvaise piété populaire?
Oui, en tout cas, le pape François encourage l'attention, le respect de l'expression de la foi des gens simples. Au fond, la piété mariale, on peut la résumer en 3 verbes. Connaître, aimer et servir. La prédication, la préparation des pèlerinages sert à faire connaître le mystère de Marie pour mieux aimer Marie. Et la dévotion, c'est l'expression de l'amour. C'est aussi l'expression de la curiosité, bien sûr. Mais la conversion qui doit s'opérer à l'occasion d'un pèlerinage doit aboutir au service. Servir Marie pour servir son fils, pour servir le royaume, pour participer à l'avènement du royaume. Donc il y a là toute la démarche de la spiritualité mariale, mais au cœur de l'Église, connaître, aimer, servir Marie pour mieux connaître, aimer et servir son fils.
Père Michel Cambon, alors ce sanctuaire de Notre-Dame de Rocamadour, c'est le sanctuaire fondé sur le roc.
Alors, Notre-Dame de Rocamadour, oui, c'est un pèlerinage qui reçoit énormément de monde. C'est un lieu très touristique par son aspect particulier. Et à certaines époques, le tourisme a peut-être un peu dominé, mais actuellement, il y a un grand renouveau spirituel à Notre-Dame de Rocamadour qui se manifeste de bien des côtés. D'abord parce qu'il y a beaucoup de pèlerins qui passent, beaucoup de groupes viennent spécialement.
Mmh. Elle est sur le chemin du chemin de Saint-Jacques, hein?
Alors, pas exactement. À la fois, ça se trouve... C'est une bifurcation du chemin de Saint-Jacques. C'est un grand pèlerinage du Moyen-Âge. Régine Pernoud disait que c'était le Lourdes du Moyen-Âge. Et le chemin, il passe par Cahors, c'est-à-dire à 70 km. C'était quand même un peu lié au... Mais c'était un but en soi. Même si la plupart des pèlerins qui allaient à Saint-Jacques, il faut passer par Rocamadour, bien entendu. Ils partaient pendant plusieurs semaines de chez eux, voire des mois, et ils passaient à côté d'un lieu aussi connu, donc ils n'hésitaient pas à faire le détour, bien entendu.
C'est étrange de penser que cette même question nous était posée souvent à Verdelay. Est-ce que vous êtes sur le chemin de Saint-Jacques? Comme si le chemin de Saint-Jacques était par-dessus tous les sanctuaires.
Les sanctuaires. Et ce sont d'abord les sanctuaires qui ont préexisté. Elle est particulière, cette Vierge de Notre-Dame de Rocamadour?
Alors, elle est particulière, Notre-Dame de Rocamadour. Oui, d'abord, c'est une Vierge noire qui n'était probablement pas noire à l'origine. Il y a eu des analyses faites très récemment dessus. On l'a teintée en noir, probablement, à une époque indéterminée, probablement vers le XVIIe siècle, parce qu'il y a eu une forme de piété autour de la phrase latine « Nigra sunt et formosa »,« Je suis noire mais belle ». Mais c'est une Vierge de majesté, qui a eu bien des vicissitudes, qui était probablement très, très enrichie au Moyen-Âge, couverte de plaques d'argent, peut-être de gemmes. Alors elle a subi tout ce que subit l'histoire. Elle est très ancienne, elle est du XIIe siècle, donc elle a eu des pillages. Elle nous vient un peu victime du temps, et en portant évidemment toute cette histoire qui est au moins de 8 siècles. Au moins de 8 siècles.
Qui vient en pèlerinage à Rocamadour?
Alors, tout le monde. Tout le monde vient au pèlerinage de Rocamadour. C'est un pèlerinage qui touche quand même plutôt les familles et les jeunes, parce que ce n'est pas un lieu très facile au point de vue accès pour les personnes qui auraient des difficultés de déplacement. Donc, c'est plutôt les familles, c'est plutôt les jeunes. Mais Notre-Dame de Rocamadour, c'est un peu Notre-Dame de la délivrance matérielle de chêne dans le passé, plus trop aujourd'hui, mais on a un exoto des fers de galériens, par exemple. Il y avait des pèlerinages judiciaires. Et puis tous ceux qui ont des délivrances du péché, délivrances des peines déjà. Alors, évidemment, c'est une Vierge, les anciens ont tout à fait leur place, bien sûr, à Rocamadour, mais c'est une Vierge qui touche surtout plutôt les jeunes.
Est-ce qu'à Rocamadour, il y a eu ou il y a une communauté stable de moines ou de moniales ou de...
Il y a eu au Moyen-Âge, bien sûr, c'était des moines bénédictins qui dépendaient de l'abbaye Saint-Martin de Tulle. Et cette année, le diocèse de Tulle fête son anniversaire, en quelque sorte, car il a été créé en 1317. Et donc, du fait, la répercussion pour Rocamadour, ça a été que les moines bénédictins se sont retirés et ont été remplacés par des chanoines qui sont restés là jusqu'à la Révolution. Alors, depuis la Révolution, il n'y a plus eu de religieux, c'est des prêtres diocésains, un recteur, des chapelains qui assurent le fonctionnement du sanctuaire.
Oui, parce que je reviens un peu à la question de tout à l'heure. Dans la mesure où il y a des communautés monastiques ou bien à l'origine un ermite, ça explique pourquoi ces sanctuaires sont plutôt à l'écart des chemins plutôt que sur les grands chemins.
Oui. Alors, à l'origine de Rocamadour, il y aurait un ermite. C'est un peu légendaire, on ne sait pas trop. Les archives ont disparu. Il y aurait le fameux Saint-Amadour, dont on a redécouvert le corps intact en 1166, et qui est resté intact jusqu'à la crise protestante où le corps a été saccagé mais donc un ermite, et autant que l'on puisse savoir des probabilités, c'est peut-être son ermitage ou une grotte à côté qui a été transformée en chapelle, laquelle a grandi au cours des siècles.
Oui, beaucoup de sanctuaires ont pour origine un ermite, et souvent, et plusieurs, en France en tout cas, sont des anciens chevaliers de croisade. C'est le cas de Verdelais, Géraud de Grave, mais j'ai vu ça aussi en Alsace.
Voilà, qui se sont convertis.
Voilà, et qui se sont retirés dans la montagne. Et puis alors, les gens sont venus prier avec eux, et peu à peu, ça devient un lieu de dévotion. Après l'ermite, on installe une communauté religieuse, etc.
Père Michel Cambon, qu'est-ce qui est proposé aux pèlerins tout cet été ?
Alors, ce qui est proposé, bon, il est proposé, bien entendu, une vie ecclésiastique ordinaire, si je puis dire. Mais
avec la messe proposée deux fois par jour ?
Voilà, la messe, des offices, l'adoration eucharistique tient une grande place. Et puis aussi, il y a, pour les fêtes, notamment le 15 août, alors ça prendra une dimension un peu plus importante avec procession, etc. On est rejoint pendant l'été par beaucoup de prêtres. Encore hier, un m'annonçait, est-ce que je peux venir telle semaine ? Mais j'ai dit, mais bien sûr, il faut venir. Donc on a quand même une communauté de prêtres assez importante pendant l'été. Et surtout, on a des jeunes bénévoles qui assurent les visites, qui assurent l'animation des offices, ce qui fait que tout cela est très vivant. Tout cela est très vivant, c'est sérieux, mais c'est dans une ambiance assez joyeuse, assez dynamique. Et là aussi, je crois que c'est une des richesses du sanctuaire.
Qu'est-ce qui attire autant les prêtres à Notre-Dame de Rocamadour ?
Alors, sans trahir de secret, hier, un prêtre des missions étrangères de Paris me disait « Quand j'étais diacre, mes supérieurs ont voulu m'envoyer un stage à Rocamadour. J'ai tout fait pour l'éviter tellement j'avais une mauvaise impression de ce sanctuaire où j'étais passé en famille et qui me paraissait complètement mort. » Et il me dit maintenant, mes supérieurs n'arrêtent pas de se moquer de moi parce que j'y serai toujours fourré. Voilà ce qui fait, je pense que c'est ce renouveau du sanctuaire, cet aspect de jeunesse, cette atmosphère de prière aussi, qui fait que Rocamadour a retrouvé son aspect attirant.
Et peut-être aussi.
Il y a toujours eu beaucoup de monde à Rocamadour, mais à une époque, c'était le tourisme qui dominait. Alors on ne chasse pas les touristes, loin de là, mais on leur apporte quelque chose de plus. Et souvent, les touristes, comme disait un ancien recteur, ce n'est pas du chimiquement pur. Ils deviennent pèlerins pendant quelques moments.
Oui, donc le désir peut-être aussi de beaucoup de prêtres d'être disponibles pour le sacrement de pénitence, parce que c'est quand même une pratique importante des sanctuaires pour permettre justement la conversion de ceux qui désirent faire ce pas.
Alors, tous les jours, on a des permanences de confession. On a installé des locaux au fond de la basilique Esprit pour que ce soit commode. Et donc, tous les jours, avant les messes, bien sûr, mais l'après-midi aussi, il y a de longues permanences de confession, ce qui permet à tous ceux qui le désireraient d'y avoir accès.
Une autre pratique, sans doute aussi à Rocamadour, c'est le chemin de croix. Est-ce que vous le pratiquez régulièrement ? Est-ce que vous l'organisez ou vous le laissez à la dévotion privée ?
Alors, il y a un peu de tout. Bon, pendant le carême, on l'organise, on le pratique, etc. Pendant certains temps forts aussi. Un peu moins le reste du temps. Et pour une raison très, très simple, c'est que le chemin de croix est devenu aussi, on a un beau chemin de croix à Rocamadour, mais est devenu un peu le passage des pèlerins et des touristes qui descendent du plateau. Donc il n'est pas très facile à utiliser en pleine saison.
Oui, je pose la question parce que à Verdelais, les gens passent autant de temps sur le chemin de croix qui monte sur la colline que dans la basilique. Et souvent, simplement, c'est une promenade pieuse. Peu de gens, peu de ces pèlerins, si je puis dire, s'arrêtent aux stations pour méditer. Aussi, quand j'étais recteur, c'était une de mes préoccupations de faire prier ce chemin de croix, de le faire méditer, un peu comme complément de la basilique glorieuse, justement pour permettre aux gens d'exprimer les souffrances pour lesquelles ils sont venus prier, chercher la consolation sur ce chemin d'espérance.
Ouais. À Rocamadour, la grande dévotion, c'est autour quand même de la Vierge Noire, c'est la chapelle. Le chemin de croix, il est très emprunté, je vous dis, il est presque devenu le chemin public, puisque les parkings sont, une grande partie des parkings sont au niveau du château, en haut. Le sanctuaire est construit 90 mètres plus bas, et donc les gens montent et descendent par le chemin de croix, sinon il faut prendre l'ascenseur, et ça peut être un peu onéreux pour certaines familles. Et donc, du coup, ils montent et ils descendent. Alors, ils le font pas à proprement parler, le chemin de croix, mais moi qui monte aussi à pied et qui descends à pied pour justement les voir. Souvent, je rencontre des familles qui expliquent aux gamins « Ah ben tu vois, ça c'est la station, on a mis Jésus en croix. » Et alors le gamin demande « Mais pourquoi on l'a mis en croix ?» Alors, c'est les parents qui font ça le vouloir, finalement, un peu de catéchisme, et qui doivent se creuser un peu la tête pour se rappeler leurs souvenirs à leurs gamins qui leur posent des questions. Donc, c'est pas le chemin de croix, évidemment, dans sa forme habituelle, mais... c'est quand même un appel à connaître la vie de Jésus, à connaître ce qui s'est passé, et je crois que c'est important.
Merci beaucoup, Père Michel Cambon. Et puis on invite tous ceux qui descendraient vers le sud par là à s'arrêter, évidemment, au sanctuaire de Notre-Dame de Rocamadour.
Ah ben, ils ne seront pas déçus. En plus. C'est un très bel endroit.
Avec de bonnes chaussures pour grimper. Voilà.
Et ceux qui ne savent pas où est Verdelay, quand ils sont sur l'autoroute entre Bordeaux et Agen, c'est au niveau de Langon, là où prend l'autoroute vers Lourdes, justement, vers Tarbes et Lourdes.
Voilà. Bel été à vous, Père Michel Cambon.
Voilà, merci
et à
beaucoup.
Tous les pèlerins, merci à vous. On le voit, toute cette diversité des sanctuaires, Père Robert Witwicky, et en même temps, on le voit bien que cette piété populaire, elle nous mène forcément à aimer encore plus le Christ et à aimer encore plus ce monde et à le confier à Marie.
Oui, je pense qu'il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que les familles choisissent aussi le sanctuaire qu'ils veulent visiter tel été. Rocamadour est quand même plus sportif que Lourdes, si je puis dire. Et tout le monde sait que quand on va à Lourdes, on va rencontrer des malades, ce qui n'est pas le cas à Rocamadour.
Il faut grimper tout là-haut sur la roca.
Oui.
Et, on voit beaucoup d'ailleurs d'aumôniers aller avec des jeunes, des étudiants. C'est intéressant parce que ça marque une certaine vitalité aujourd'hui quand même de la foi en France.
Ah, tout à fait, c'est bien. Et puis alors, il y a toujours aussi cette dimension historique. Plus c'est ancien, plus il y a de légendes à l'origine, plus c'est attirant. Il y a ce mystère à creuser, pas seulement de l'évangile, comme les enfants qui posent des questions devant le chemin de croix, mais même sur l'histoire, le sanctuaire dans l'histoire de la France.
Et en même temps, on ancre ses pas dans l'histoire des pèlerins qui y ont précédé.
Voilà, c'est ça.
Allez, on va faire une pause musicale, évidemment, en lien avec cette émission consacrée au sanctuaire Mario, notamment, et on se retrouve dans un instant.
Radio Notre-Dame.
Chaque fois que je vous appelle, votre parfum vient se poser sur ma peau, une huile essentielle indélébile comme un baiser. Et mon cœur n'a que vous si belle que je ne peux que murmurer l'amour qui brûle ma prunelle et qui me tient les yeux fermés. Donnez-moi plus qu'une certitude, donnez-moi une mariale attitude. Ma pauvre vie ne serait-elle qu'un souffle entre vos doigts tissés, un papillon fragile aux ailes qu'un vent fou peut vite emporter. Et mon cœur n'a que vous si belle que je ne peux que contempler l'amour qui de vous me ruisselle comme un frémir inachevé. Donnez-moi plus qu'une certitude, donnez-moi une mariale attitude. toutes les femmes. Votre être m'a saisi d'un sourire mordant. À vos genoux, Marie. Et lorsque la nuit m'ensorcelle, quand je n'ai plus rien à chanter, il ne reste qu'une étincelle, un éclat d'étoile, un secret. Mon cœur qui n'a que vous, si belle, sur votre doux sein vient poser sa tête, ses pensées rebelles et son regard inconsolé. Donnez-moi plus qu'une certitude, donnez-moi une mariale attitude, donnez-moi plus qu'une certitude.
Daniel Fasarias, Maria Latitude, pour cette émission consacrée au pèlerinage, au rassemblement dans les sanctuaires et particulièrement les sanctuaires mariaux pour cet été. Toujours avec moi, le père Robert Witwicki, marianiste et ancien recteur du sanctuaire marial de Notre-Dame de Verdelais et membre de la Société d'études mariales. Nous avions à l'instant le père Michel Cambon, recteur du sanctuaire de Notre-Dame de Rocamadour, que nous remercions. Et nous irons, si on peut, dans quelques temps, quelques minutes, à Sainte-Anne-d'Auray. Père Robert Witwicki, quelle serait notre mariale attitude aujourd'hui ?
Notre mariale attitude. Je pense qu'une des choses sur lesquelles les papes insistent beaucoup ces temps-ci, c'est notre responsabilité dans l'annonce de l'Évangile, l'évangélisation. Et j'aime beaucoup le thème de l'imitation de Marie. Et en fait, finalement, imiter Marie, c'est la regarder, c'est s'inspirer d'elle. Mais aux yeux du monde, le défi ultime qui est lancé aux chrétiens qui vont dans les sanctuaires dédiés à Marie, c'est de devenir eux-mêmes des images vivantes de Marie pour que les gens puissent voir vivre Marie. Et ces dernières années, le thème d'une église mariale est devenu un peu à la mode, que l'on vive des relations à l'exemple de Marie, d'écoute de la parole, de réflexion sur la parole, de lex divina, de disponibilité pour le service dans le mystère de la visitation, de donner Jésus au monde, ça c'est un thème classique évidemment, aussi de louange. On vient d'écouter une belle chanson, un beau chant en l'honneur de Marie. Marie est aussi celle qui chante, voilà.
Et on va chanter sans doute évidemment, et on chante déjà à Sainte-Anne-d'Auray, grande fête évidemment pour les Bretons, mais bien au-delà. Et j'accueille avec joie le père André Guillevic. Bonjour père.
Bonjour.
Vous êtes
bonjour.
Le recteur du sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray. Alors oui. on fait un petit peu un écart par rapport au sanctuaire Mario, mais c'est ce que je disais évidemment, on ne peut pas évoquer Marie sans évoquer Sainte-Anne et Joachim,
oui, bien
évidemment.
Sûr. Oui.
Grand lieu de pèlerinage, Sainte-Anne-d'Auray.
Oui, bien sûr, grand lieu de pèlerinage. Et nous sommes en train de préparer actuellement donc les fêtes, le grand pardon de Sainte-Anne, comme on dit ici, les 25 et 26 juillet.
Qui seront évidemment sous la présidence de Mgr Laurent Donien, évêque du diocèse
oui,
de Quimper
oui,
et Léon.
Quimper et Léon, oui.
Exactement. Avec une conférence aussi particulière du père Pascal Durand, recteur de la basilique Sainte-Anne de Jérusalem.
Oui, oui, que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'année dernière. Lorsque je suis allé à Jérusalem, il venait d'arriver depuis peu de temps.
Que nous apprend Sainte-Anne sur Marie ?
Alors, d'abord, ce qu'elle nous dit elle-même lorsqu'elle est apparue ici en 1625, 23, 24 et surtout 25, elle dit « Je suis Anne, mère de Marie ». On dit « Elle ne s'est pas présentée seulement en disant « Je suis Anne ». Mais elle s'est présentée par rapport à sa fille, disons, elle s'est présentée par rapport à sa maternité. Donc, elle nous donne Marie. Et donc, c'est bien ce qu'ont compris tous les pèlerins depuis presque 4 siècles maintenant, et Sainte-Anne est devenue le sanctuaire de la famille et de la transmission de la vie et de la transmission de la foi et de toutes les valeurs chrétiennes à travers ces maternités, donc tous ces liens dans la famille.
Ce qu'avait bien redit Jean-Paul II quand il était venu à Sainte-Anne.
Exactement. C'est bien ce qu'il avait développé ici, en partie dans l'homélie du matin et surtout l'après-midi, lorsqu'il avait rassemblé les jeunes familles devant le mémorial.
Alors, les gens aiment à venir à Sainte-Anne-d'Auray pour ce pèlerinage, notamment le 25-26 juillet. Que viennent-ils chercher, au fond ?
Alors, que viennent-ils chercher ? Eh bien, nous le savons particulièrement par les cahiers qui sont dans la basilique, où ils mettent leurs intentions de prière, et qui sont gros comme sans doute un petit peu partout, quoi. Hein. Des demandes pour la famille, pour les enfants, pour les petits-enfants, pour leur santé, pour la réussite, etc. Mais aussi, il y a quand même quelque chose de particulier, des demandes de naissance. On vient prier Sainte-Anne pour avoir une naissance dans la famille. Et il y a des demandes et il y a des merci. Ensuite, des gens qui viennent remercier parce qu'après une attente de X années, il y a eu enfin une naissance. Et ils viennent à ce moment-là remercier.
Père Bantré, bonjour. Vous avez dit que Anne, donc, c'est la mère de Marie, bien sûr. Et je pense qu'au-delà de cette figure, elle représente l'enracinement biblique de la Vierge Marie. Il y a une autre Anne dans l'Ancien Testament qui est très célèbre. C'est la mère de Samuel, bien sûr. Et justement, le problème que vous venez d'évoquer, avoir des enfants, c'était le problème et la prière de Anne. Est-ce que cette Anne de l'Ancien Testament vous inspire dans votre catéchèse, dans votre prédication à Sainte-Anne-d'Auray?
Oui, mais bien sûr, cette prière de cette femme qui vient supplier, et puis voilà, on se moque d'elle. Et oui, mais bien sûr, cette prière, cette supplication, il y a vraiment des suppliques d'inscrites sur le cahier pour une naissance. C'est la même prière de Anne, mère de Samuel, avec d'autres mots aujourd'hui, peut-être une autre manière de le dire, mais c'est la même supplication, oui.
Et d'autres femmes de la Bible.
Oui, bien sûr. Toutes ces femmes qui ont attendu.
Ces matriarches.
Oui.
Alors, on ne peut pas oublier non plus que Sainte-Anne est la patronne de la Bretagne, hein, et que ce pardon, puisque c'est un pardon, est particulièrement, évidemment, marqué par la culture bretonne.
Oui.
Quelle définition peut-on donner justement au mot pardon ?
Eh bien, les pardons en Bretagne, disons, ce sont ces fêtes du dimanche qui se passent autour d'une chapelle. D'abord, il y a grosso modo en Bretagne dans les 3000 chapelles, et chaque chapelle a son pardon. C'est une journée où se retrouvent particulièrement les gens du quartier, des quartiers, des paroisses. Et à l'origine, donc, ils se retrouvaient, se confessaient, se réconciliaient dans cette journée. Il y avait au moins un jour dans l'année où on oubliait les conflits. Hein ? On se pardonnait, même si le lendemain, on pouvait un peu recommencer à se taper dessus. Mais une journée dans l'année, on oublie, on se pardonne. Alors, il y avait le côté religieux le matin, donc la confession, l'Eucharistie, et l'après-midi, les festivités, les danses bretonnes, avec dans certaines chapelles, dans les lieux les plus importants, des vêpres. Mais aussi tout le côté bignou, bombarde, danse bretonne, la réjouissance du quartier.
Ce qu'on retrouve aussi encore aujourd'hui dans les pardons, hein, en Bretagne, évidemment.
Oui, ça existe encore, oui.
Vous avez fait allusion beaucoup.
Selon la taille de la chapelle, selon l'importance du lieu.
Oui. Vous avez fait allusion à Sainte-Anne de Jérusalem. Il y a aussi Sainte-Anne de Beaupré au Canada.
Oui, mais bien sûr.
Est-ce qu'il y a des relations particulières entre ces différents sanctuaires de Sainte-Anne?
Très occasionnelles.
Ah oui.
Très occasionnelles, oui. Oui, Sainte-Anne de Beaupré a été donc mise en place à l'origine par des marins bretons, non pas par des prêtres.
Ah oui.
Voilà, de l'importance aussi de cette piété populaire qui s'exporte à travers les mers.
Hein. Oui, en 1660, c'est des marins qui étaient restés bloqués dans le Saint-Laurent.
Père André,
des marins bretons.
Père André, vous êtes musicien. Les sanctuaires ont généralement un chant particulier qui résume un peu, qui exprime un peu le message du sanctuaire.
Oui.
Est-ce que vous avez composé des chants sur Sainte-Anne-d'Auray?
Oui, plusieurs. Oui. Oui.
C'est vrai qu'on aurait pu en choisir un pour Sainte-Anne, évidemment. Merci beaucoup, Père André Guillevic. Alors, on rappelle le rendez-vous, hein, parce qu'ils vont être nombreux à se rendre en Bretagne. Et je pense à nos auditeurs qui seront sans doute nombreux présents aussi dans l'Ouest et particulièrement ici, du côté de Sainte-Anne-d'Auray, le 25 et 26 juillet.
25 donc, et 26, oui.
Voilà, les mardis 25 juillet, ça commence à 15h30.
Oui, avec voilà. Les VEP, à 15h exactement, le chapelet. 15h chapelet, vêpre après, confession, et etc. Oui.
Voilà, et puis la grande procession au flambeau le soir, évidemment.
Le soir.
À 21h30, et puis le 26 juillet, la grande messe. Et la messe en breton aussi, pour ceux qui le souhaitent.
Oui, la messe en breton à 9h30.
Voilà.
Entièrement en breton.
Entièrement en breton. Merci beaucoup,
voilà,
Père André.
Bonne journée.
Guilic, belle fête de la Sainte-Anne, et à très bientôt.
Merci, au revoir.
Père Robert Vidvy, on voit que c'est extraordinaire, puisque cette dévotion mariale, ou qu'elle soit aussi par Sainte-Anne, etc., elle est partout présente dans notre civilisation, dans notre culture.
Vous avez prononcé un mot à l'instant qu'on aurait dû prononcer depuis longtemps, c'est le mot chapelet. Hein, au fond, le chapelet, qu'est-ce que c'est? Le rosaire, qu'est-ce que c'est? C'est un pèlerinage spirituel. On va d'étape en étape dans la vie de Marie, accompagnant la vie et la mission de son fils. Hein, et chaque sanctuaire, on peut dire, a un petit peu un mystère particulier à mettre en évidence, surtout le mystère de la visitation, lorsqu'on l'on se met en route. Mais c'est aussi la présentation de Jésus au temple, c'est aussi le chemin de croix, on l'a dit tout à l'heure, etc.
C'est toute la vie chrétienne
qui se met dans les pas de Marie à la suite de son fils, jusqu'au calvaire et jusque dans la gloire.
Voilà. On parlait tout à l'heure de cette initiative qui est lancée en France, hein, prier l'Angélus de midi pour la paix et la France. Alors c'est parti du 25 mars et ça culminera le 15 août avec cette nuit de prière du 14 au 15 août dans la plupart des sanctuaires de France. C'est important de confier la France à Marie.
Bien sûr. Et d'ailleurs, on le voit, on l'a évoqué tout à l'heure, beaucoup d'autres nations chrétiennes, traditionnellement chrétiennes, ont un grand sanctuaire marial symbolisant cet attachement à Marie. Vous avez prononcé une autre dévotion, c'est l'Angélus. J'aime beaucoup cette prière de l'Angélus parce que elle résume en peu de mots tout le mystère, tout le parcours de la foi, l'annonce de la bonne nouvelle par un envoyé de Dieu, la réponse de Marie, voici la servante, et la mise au service. Et le Verbe s'est fait chair, le fruit que produit cette rencontre entre l'appel et la réponse, entre la parole de Dieu et la parole de foi, c'est Jésus qui prend chair dans la vie humaine. Et ensuite, l'oraison évoque justement le long chemin de la vie des chrétiens avec les joies et les peines. Conduis-nous par la passion et par la croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Voilà.
Et qu'il est bon encore d'entendre dans nos villes ces cloches à midi ou à 19h le soir ou même à 7h le matin.
Une petite confidence personnelle, j'étais à Kinshasa en l'an 2000 et on se demandait sur la radio catholique de Kinshasa comment on pourrait marquer cette année. Eh bien, ce qu'on a trouvé, c'est de prier l'Angélus tous les jours à midi sur la radio.
Voilà. Eh bien voilà, et l'Angélus, évidemment, vous le retrouvez aussi sur Radio Notre-Dame. On évoquait tout à l'heure le Canada, hein, et l'archevêque de Québec a d'ailleurs consacré son diocèse à la Vierge Marie. Ça a été le 2 juillet dernier. Cette oui. très belle initiative, justement, une suggestion de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Chaque évêque est invité à consacrer son diocèse à Marie, au cœur immaculé de la bienheureuse Vierge Marie. C'est important.
Mais oui, c'est très bien. Très
comme
beau.
Quoi on le ressent, cette nécessité aujourd'hui, quand même, on la ressent.
Ça rejoint la motivation de la procession du 15 août en France, hein, le vœu de Louis XIII.
On reprécise, justement, Père Witwicki, ce vœu oui. de Louis XIII, ah de ben consacrer.
C'était consacrer le pays à la Vierge Marie, avec comme supplication particulière que la Vierge intercède pour... comme disait le père Ulrich, pour obtenir un enfant, et en l'occurrence un fils de roi pour succéder à Louis XIII.
Alors je crois, père Robert Witwicki, que vous avez une prière pour nous, pour terminer cette émission.
Oui, une prière liturgique de la messe en l'honneur de Marie, image de l'Église, qui peut un peu résumer tout ce que nous avons dit. Seigneur, par ta puissance et ta bonté, tu donnes à l'Église d'admirer dans la Vierge Marie le fruit le plus beau de la rédemption. Accorde à ton peuple, dans son pèlerinage sur terre, de garder les yeux fixés sur elle pour mieux suivre le Christ, de manière à parvenir comme elle à la plénitude de la gloire. Amen.
Et il faudrait repenser à cette prière quand nous allons tous nous retrouver pour célébrer la fête de l'Assomption, ce 15 août prochain.
Voilà, on souhaite à tous les auditeurs de vivre une fervente et joyeuse fête de l'Assomption.
Qu'allez-vous faire, vous, cet été, Père Robert Witwicki?
Le 15 août, je serai au Cameroun. Je vais prêcher une retraite et ce sera le jour des professions religieuses de la communauté à laquelle je vais prêcher la retraite.
Très bon été à vous et très bon été à vous, chers auditeurs, puisque c'était la dernière émission de la saison. On vous donne rendez-vous, évidemment, si Dieu le veut, à la rentrée. Voilà, très belle fête en tout cas, et n'hésitez pas à parcourir et à vous arrêter dans tous ces lieux extraordinaires, ces lieux saints que nous avons la chance d'avoir en France. On a évoqué Lourdes, on a évoqué Camadour, on a évoqué Sainte-Anne-d'Auray, que l'on célébrera le 26 juillet.
Et puis Verdelais.
Et Notre-Dame de Verdelais, dans le diocèse oui. de Bordeaux, bien évidemment. Merci à tous, à très bientôt, très bon été.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.